Bonjour à tous. Nous avons passé pas mal du temps ce matin en relation avec le Seigneur. Ça nous a fait du bien. Je vais essayer de raccourcir un petit peu. Mais voilà. Hein? Ok. J'espère que vous allez pouvoir tenir le coup. Donc, on va continuer sur la troisième partie. Ce matin, sur le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, 7 à 8, Salomon nous décrit un solitaire, une personne avare. Peut-être vous avez vu le film de Louis de Funès, L'avare. Donc c'est à peu près la même personne. Une personne qui travaille dur et beaucoup. Cette personne ramasse de plus en plus de richesses. Mais il ne se pose pas la question. Pour qui? Pour qui il ramasse? Parce qu'un jour il doit partir. Donc pour personne. Cet exemple dans notre texte, il n'a ni frère, ni femme, ni fils, personne qui lui tienne de près. Ce solitaire est tellement pris par le travail, oui, même obsédé, pour ramasser la richesse, qui ne s'est même pas posé ou pas vraiment la question « Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme des jouissances ?» Donc ce monsieur, il ne connaissait pas la joie dans la vie, comme partager un moment avec des amis, ou d'aller boire un coup, ou aller dans le théâtre ou regarder un film ou manger au restaurant. Il s'est privé de tout pour ramasser. Et les vacances, bien sûr, il ne connaissait pas parce qu'il n'avait pas de fin dans son travail. Jour et nuit, samedi, dimanche, il ne s'arrêtait jamais. Pourquoi il n'arrive pas à se poser cette question importante? Ou s'il le fait, c'est justement superficiellement et après il continue dans son travail à ramasser. Pourquoi il n'arrive pas à réfléchir profondément? Avez-vous une idée? Pourquoi il n'arrive pas à réfléchir? Oui, déjà, il ne s'arrête pas, il n'a pas trop le temps à réfléchir, exactement. Et une autre perspective, cette personne est aveugle. Il est aveugle. C'est pour ça, notre chercheur de vie, Salomon, il dit, cet état, il dit, c'est une vanité et une chose mauvaise d'être aveugle. C'est catastrophique. On ne voit pas les choses importantes dans la vie. Dans l'évangile de Luc, le Seigneur nous décrit presque la même personne comme dans le livre d'Ecclésiaste. Luc 12, 16 à 21. On va le lire justement, s'il vous plaît. Luc 12, 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela serait-il? Il en ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, son Dieu de cet homme, dans cette parabole, c'est qui? C'est le travail et l'argent, la richesse. Il est pauvre aux yeux du Seigneur, spirituellement pauvre. C'est tout actuel tout ça. Aujourd'hui, on a la même situation dans le monde, partout. Quand on voit la bourse, etc., l'homme n'a pas changé. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur nous avertit, il nous raconte une parabole d'un homme qui écoute la parole, mais la séduction des richesses étouffe cette parole. La richesse est un grand danger pour nos âmes. Elle étouffe ce que Dieu veut planter dans nos cœurs et nous rend aveugles. Pour le monde spirituel et la richesse spirituelle que Dieu veut nous offrir. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, dit le 1 Timothée 6 à 10. Le Seigneur Jésus dit même, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le mammon. Voyez, c'est pour cette raison pour laquelle Salomon nous dit, c'est une mauvaise chose et une vanité. Notre avare de notre histoire, on peut comparer aujourd'hui aussi quelqu'un, voilà, qui voit aujourd'hui que des belles voitures, les marchés immobiliers, il veut d'acheter de plus en plus, il veut faire de plus en plus grandir sa richesse à travers de la bourse. Il ramasse pour plus tard, mais est-ce qu'il y aura un plus tard? On ne le sait pas. Est-ce que je suis vivant demain? On ne le sait pas. Et dans nos jours, aujourd'hui, la tentation, elle est énorme. C'est tellement facile d'obtenir un crédit à un taux si bas. La banque, elle vous le donne assez facilement pour acheter plein de choses, même si on n'a pas suffisamment sur notre compte d'argent. Une autre question qui se pose en même temps, est-ce que c'est interdit d'être riche étant chrétien? Que dites-vous? Non? Non? Est-ce que vous avez des exemples bibliques? Abraham, bravo, il était très riche, exactement. Abraham, Genèse 13, 2. Après Barzillai, un ami de David, 2 Samuel 19, 33. Et puis Joseph d'Arimathée, un disciple de Jésus, Matthieu 27, 57. Pour ces exemples, l'argent n'a pas été un danger, car leur vraie richesse était qui? Le Seigneur. Mais pour certains chrétiens, c'est un vrai piège. Comme on peut lire en 1 Timothée 6, 10, ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tournements. Ça peut être un vrai danger pour certains chrétiens. Quel rôle joue la richesse pour vous personnellement dans cette vie? Quelle est la chose la plus précieuse dans votre vie? La richesse de ce monde ou la richesse en Dieu? Est-ce que vous travaillez pour le royaume de Dieu qui reste pour l'éternité? Ou vous ramassez la richesse et puis vous laissez dans votre jour de départ, le jour quand vous décédez, et vous laissez tout ici? Vous savez, la première préoccupation, il faut que ça soit le royaume de Dieu, cette richesse spirituelle. Le psaume 127, 1 à 2 nous dit, « Si vous aimez Dieu, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Dieu est riche, il peut nous donner tout ce qu'il veut. Donc il dit, « Concentrez-vous sur la richesse spirituelle, le royaume de Dieu. » C'est ça qui reste. Jésus dit dans l'évangile de Jean 6, 27, « Travaillons-nous pour ceux qui restent, pour ceux qui subsistent. » Un deuxième sujet pour aujourd'hui, versets 9 à 12, s'il vous plaît, dans notre livre d'Ecclésiaste. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le révéler. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Nous ne sommes pas faits pour vivre seul. Genèse 1, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Salomon nous a décrit juste avant une personne seule. Maintenant, il nous présente un couple et plus tard, une famille avec un fils. Donc, une unité, la corde à trois fils. C'est une unité qu'on ne peut pas séparer facilement. Quels sont les avantages d'une famille aujourd'hui? Quels sont les avantages encore de se marier? On dirait aujourd'hui aucun, à part de fiscalité, on n'a plus de avantages. On dirait ça aujourd'hui. Et en plus, un couple sur deux est divorcé. Alors, ce n'est pas la peine de se marier. Il vaut mieux pas d'enfants ni marier. C'est ça la conclusion de nos jours. C'est ça la tendance. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Il veut toujours qu'on se marie et qu'on a des enfants. Il n'a pas changé d'avis. Salomon nous dit, la vie est compliquée, elle est dure, difficile et des fois aussi belle et beau. Ça vaut le coup de partager la vie avec une autre personne. Porter un sac de 50 kilos tout seul. Et puis porter un sac de 50 kilos à deux. On est tous d'accord, ça serait beaucoup plus facile. Je lui ferai une aide. Est-ce que nous sommes une aide pour notre bien-aimé? Ou plutôt un fardeau? Ça peut être vrai aussi. Si chacun dans un couple prend sa place, sa responsabilité, la vie, effectivement, elle devient plus facilement pour chacun. Elle pèse moins lourd. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Je me rappelle, il y a à peu près 2 ans, j'ai essayé de réparer l'imprimante parce qu'elle est tombée en panne. J'ai essayé toute la journée, mais je n'arrivais pas. Comme j'étais un peu en dispute avec ma femme, je me suis dit, je vais le faire moi-même, tout seul. Je n'arrivais pas. Le soir, elle m'a demandé, alors, tu as pu réparer? Non, est-ce que tu pourras m'aider peut-être, s'il te plaît? Elle a regardé, et dans quelques minutes, l'imprimante, elle a été réparée. Elle a redémarré. Deux valent mieux. africains parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Quand on voit dans notre jardin, chaque année on plante des pommes de terre, des tomates, etc. Mais c'est du travail. Et après, en été, en août, septembre, on a une très bonne récolte. Hein, chaque année, c'était comme ça. Mais tout seul, on n'aura jamais ce salaire, jamais cette récolte. Heureusement, ma belle-mère aussi, de temps en temps, elle nous soutient. Comme ça, vraiment, la récolte, elle est bonne. Verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Dans un couple, il y a comme avantage un soutien. À l'époque, j'ai réfléchi de faire mes études en tant qu'kiné, mais je me suis dit, je ne suis pas capable de le faire. Je n'osais même pas faire la demande. Mais c'est ma femme qui m'a encouragé, qui m'a poussé de faire des études de kiné. Et voyez, ça a réussi. Elle m'a soutenu. Quand j'étais très malade, beaucoup de crises d'asthme, j'étais vraiment par terre, comme on dit. Elle m'a poussé d'aller vers les montagnes, comme la pneumologue m'a conseillé, et d'essayer si mon état de santé s'améliore. Et effectivement, j'ai écouté aussi la pneumologue et ma femme, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Avec l'âge, c'est encore plus important d'avoir un soutien, quelqu'un à côté. Ça devient plus dur avec l'âge. Verset 11. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Je connais quelqu'un qui est seul, qui a une maison, un bel jardin. Mais il me disait un jour, tu sais Arsène, le soir quand je rentre, je suis seul. Et quand je me couche, c'est encore pire, j'ai personne. Je me lève 30 fois par nuit. Dans la nuit, je ne dors pas. C'est vraiment difficile. Pour moi, le meilleur moment de la journée, c'est d'avoir ma femme dans mes bras après une journée dure, c'est endormir avec elle. Surtout en hiver, quand il fait froid. C'est magnifique d'avoir, voilà, cette chaleur humaine est très important. Ça réchauffe physiquement, mais aussi ça réchauffe nos âmes, nos cœurs. Et c'est pour cette raison, les créateurs savaient dès le départ qu'on a besoin de tout ça. Genèse 1, 24. Lisons, s'il vous plaît, Genèse 1, 24. Je pense que je me suis trompé. Attendez. Peut-être 2, 24. Oui, 2. Excusez-moi. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dieu a voulu que l'homme et la femme soient inséparables. Une unité qu'on ne puisse pas séparer. Et Matthieu 19, 3 à 6, le Seigneur dit, il ne veut pas la séparation ni la divorce. Et le Seigneur, il va encore plus loin. Même après un adultère, Dieu préfère la réconciliation. Dans le livre de Maléachi 2, 16, le Seigneur dit, « J'ai haï la répudiation. » Dieu déteste la divorce. il faut regarder vers le Seigneur. Osée 3, 1 à 2. Jette-toi un œil sur Osée 3, 1 à 2. Osée 3, 1 à 2. Il y a vraiment un truc incroyable que Dieu demande à son prophète. Il dit, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux des raisins. Incroyable! Quel amour de Dieu! Cette image de ce prophète, hein, il était obligé d'aller chercher encore une fois sa femme, qu'il a trompée, qui était une prostituée. Hein, il a même marié une prostituée, pour montrer à ce peuple, Israël, que moi, même si vous devenez infidèle, moi je reste fidèle. 2 Timothée 2, 13. Ça c'est Dieu. Voyez son amour, il n'y a pas de séparation. Il continue avec le peuple Israël, même s'ils ont mis à côté, mais il ne va jamais les quitter. Et avec son Église, bien sûr, non plus. Éphésiens 5, 30, 31 et 32, on voit que l'image d'un couple est une image entre Christ et son Église. Aujourd'hui, on est financier avec le Christ, mais on sera marié avec le Christ. C'est le jour qu'on attend pour être pour toujours avec lui, inséparable. Et un couple devrait donner cette image. C'est pour ça qu'un mariage est sacré. C'est l'idée de Dieu, c'est lui qui a inventé ça. Donc je vous demande, pardonnez et réconciliez-vous si vous êtes dans cette situation. Recherchez l'unité, c'est la volonté de Dieu. Peut-être vous allez me dire, je ne peux pas. Il y avait tellement de choses qui s'est passées. Mais je peux vous dire, si vous êtes un chrétien, vous pouvez. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous avez vu le cœur de notre Dieu envers Israël. Et ce cœur, il a été donné à nous. Incroyable! Donc on a cette capacité de pardonner, de se réconcilier. Peut-être vous dites encore, non, je n'arrive pas, mon cœur ne veut pas, je ne peux pas. Je vous dis encore une fois, 1 Jean 3, 19 à 20, c'est écrit que Dieu est plus grand que notre cœur. C'est magnifique ça. Dieu est plus grand que nos émotions, que nos cœurs. Faites confiance en lui. Il est capable de vous donner un cœur qui pardonne, qui obéit à lui. Demandez et vous recevez. Verset 12. Chapitre 4, 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Salomon, le plus sage au monde, il nous dit, quand on est à trois, on est plus en sécurité qu'une personne seule. Quand on est à trois, on est plus fort qu'une seule personne. Je me rappelle, il y a plusieurs semaines en arrière, ma patiente qui vit toute seule il y a peut-être 2 ans, une maison à part, elle a été cambriolée. Son mari est décédé, donc c'était plus facile pour le cambrioler. d'attaquer une personne qui est seule. Donc Salomon nous dit, on est plus fort quand on est à trois. Qu'est-ce que c'est une société? Une autre question. Une société, elle contient quoi? Oui, exactement. Ou plus précisément, elle contient plusieurs familles. Donc, c'est en famille qu'on apprend tout ce qu'il faut pour la vie. L'éducation, ce qui est mal, ce qui est mauvais, etc. Dans une famille, on trouve une stabilité, on est fort. Et les enfants renforcent le couple, ce que dit Salomon. Et c'est effectivement approuvé par une statistique. C'est montré que les couples qui ont un enfant ou des enfants, ils se séparent ou ils se divorcent beaucoup moins. Un enfant renforce le couple. Pendant des périodes difficiles qu'un couple peut avoir, si on a un enfant, c'est plus difficile à se séparer parce qu'il y a beaucoup en jeu. Donc on réfléchit plus profondément. Un enfant soude un couple, ça colle. On se quitte vraiment plus difficilement quand il y a des enfants ou des enfants en jeu. Les enfants empêchent les parents de faire des bêtises ou de prendre des mauvaises décisions sur le coup. Donc, je répète le programme de Dieu pour notre société, parce que s'il n'y a plus de familles, qui c'est des couples, des mariés, on n'a plus d'enfants, on n'a plus de familles. Donc, on n'a plus de société. Le programme de Dieu, c'est une femme, un homme et un enfant ou des enfants. Ça, c'est malheureux, mais aujourd'hui, je dois le dire comme ça, très précisément, ce n'est plus naturel. Aujourd'hui, nous avons d'autres options, comme deux hommes, deux femmes qui adoptent un enfant. Mais devant Dieu, ça ne va pas. Il n'a pas changé. Ce n'est pas naturel. C'est contre Dieu et son plan. C'est un péché. Lisons Lévitique 20, 13, s'il vous plaît. Lévitique 20, 13. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. Excusez-moi. 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Voyez comment Dieu juge. Il n'accepte pas. Même si notre société accepte tel couple, mais Dieu, non. J'étais très content d'avoir cette résistance qu'il y a encore en France. Il y avait beaucoup de gens qui sont allés dans la rue pour protester contre cette évolution. Malheureusement, je n'ai pas vu ça en Allemagne d'où je viens, mais j'étais vraiment heureux, fiers des Français qui sont sortis sur la rue, qu'ils ont montré qu'il y a encore une valeur dans cette société. Et je pense, j'ai pas vu ça ailleurs qu'en France. Il y avait beaucoup. Ça m'a beaucoup touché. Où sommes-nous aujourd'hui dans notre société? Vous savez, il y a 30 ou 40 ans, quand on était homosexuel, on a été en prison. Et à peu près 100 ans ou 120 ans en Allemagne, il y avait pour un adultère la condamnation à mort. C'est pas si longtemps. Donc, on a beaucoup changé. Quelle est la situation d'aujourd'hui? Lisons Romains 1, tout actuel. Les journaux d'aujourd'hui, on le trouve sur le Romains 1, 24 jusqu'à 28, s'il vous plaît. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. C'est très sérieux, c'est très grave, et c'est là où on se trouve en ce moment. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés. On est en plein jugement des dieux. Dieu n'a pas changé. Le pire que ce qu'on peut arriver à une société, à un homme, c'est Dieu nous livre de nous-mêmes. Ça, c'est le pire. Dieu relâche. Là, on est capable à faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. L'homme, il déconne complètement. De ne pas vouloir connaître Dieu et son plan nous amène vraiment à une catastrophe immense dans la société. Regardez, tous les jours on entend ça, des prêtres pédophiles, où on trouve des squelettes de bébés derrière le monastère. Pourquoi ça arrive? Parce que l'homme ne suit pas le plan des dieux. Des anomalies sexuelles comme ça, c'est le salaire quand on ne suit pas le plan des dieux. Tout simplement. Vous savez, l'Église catholique, elle se base finalement sur l'apôtre Pierre, qui est le fondateur ou le successeur. Le premier pape, donc, c'est Pierre, après l'Église est catholique. Que dit la Bible sur ce pape, entre guillemets, Pierre? Il était marié, ce premier pape. Marc 1, 30, il a été marié. Il avait une belle-mère que Jésus avait guérie de sa la fièvre. 1 Corinthiens 7, s'il vous plaît. L'apôtre Paul y dit: toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, même un prêtre. Il a le droit d'avoir une femme. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. C'est ça le plan de Dieu. Et puis, 1 Corinthiens 9, 5, s'il vous plaît. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Képhas, donc Pierre, n'avons pas nous le droit? Si, Dieu a dit, ce n'est pas bon de rester seul. Bien sûr, il y a des exceptions. si vous voulez rester seul. Mais il faut avoir cet appel et ce don. 1 Corinthiens 7, 7. L'apôtre Paul, il avait ce don. Il s'est consacré entièrement pour le service du Seigneur. Mais il avait ce don. Si vous n'avez pas ce don, ne vous consommez pas comme ça. Ça va pas. Il faut pas rester seul. Ça fait presque 30 ans que je suis avec ma femme, mariée. Et on a eu pas mal de hauts et de bas. Et heureusement, nous avons connu le Seigneur assez rapidement. Et je peux vous dire, s'il n'y avait pas le Seigneur dans notre couple, aujourd'hui, je ne serais pas là. Vous savez, j'étais musulmane à l'époque, et une musulmane et une... elle n'était pas athée, mais à peu près, ça ne va pas du tout. Et ce que je veux vous dire, c'est encore une autre interprétation de ce verset 12. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Donc, il nous parle d'une alliance. Hein? C'est une corde. Une corde qui tient trois fils. Devant Dieu, d'être marié, c'est vraiment une responsabilité énorme. Pas seulement devant Dieu, aussi devant la femme ou l'homme. Dans un couple où le Seigneur règne, la corde ne se rompt pas. Impossible. S'il se rompt, c'est à cause de nous. Si ça casse, c'est nous. Parce que nous avons pas voulu pardonner. Parce que le cœur, il était trop dur pour se réconcilier. Parce que Dieu veut pas la divorce. Donc, nous avons souvent continué dans notre couple et redémarré de zéro, si vous voulez. Mais avec le Seigneur. C'est tellement facile aujourd'hui de se séparer. Quand on pense, on a aussi l'aide de l'État, ça va facilement. Mais est-ce que c'est vraiment mieux après? Que dit Salomon? Non, il dit, il vaut mieux être à Dieu. Et encore mieux, si c'est le Seigneur qui est au centre d'un couple, d'un mariage, d'une famille. Et cette corde, elle tiendra. Peut-être vous vous posez cette question aussi, mais c'est Salomon, ce qui nous dit tout ça, mais lui, il avait je ne sais pas combien de femmes. Ça ne va pas du tout. Donc ça sera dans le chapitre 7, je vous expliquerai, si Dieu le veut, un peu plus sur sa vie, sa chute, mais aussi sa restauration. Que Dieu vous bénisse. Amen.